Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Émilie. Elle est notamment monitrice de portage. Vous pouvez la retrouver sur Internet et sur les réseaux en cherchant dans ma poche à kangourou. L'être humain, comme d'autres espèces, est une espèce portée. C'est une pratique qui a assuré la survie de l'espèce pendant des centaines de milliers d'années. Pourtant, elle avait presque disparu de notre culture occidentale. Il faut donc réapprendre ces gestes qui faisaient partie du quotidien de notre espèce il y a fort longtemps. Pour cela, nous pouvons faire appel à des monitrices de portage. C'est le cas d'Émilie notamment. Il y en a d'autres, je vous invite à vous renseigner, nous donnerons quelques pistes dans l'épisode. Et la première question que je voulais poser à Émilie, c'est justement, quelle histoire l'a amenée à être monitrice de portage? Je vous souhaite une très bonne écoute.
C'est l'histoire de ma maternité, clairement. Quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été pas une évidence pour moi de commencer à le porter, mais ça a été une bonne solution sur le côté pratique, on va dire, pour pouvoir faire des balades et puis le porter un petit peu à la maison. Et ça a été vraiment une révélation pour moi quand j'ai eu mon deuxième enfant, qui n'était pas posable. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu cette révélation de me dire « Purée, mais les gens qui n'ont pas cette solution de portage avec eux et qui ont des enfants comme le mien, hein, qui passent 8 heures par jour dans les bras, qu'est-ce qu'ils font ?» À part rester 8 heures dans le canapé, c'est pas possible. Donc du coup, moi, ça a été vraiment ma bouée de sauvetage. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé vraiment de tout plaquer, de me reconvertir et de pouvoir accompagner les parents dans cette aventure.
D'accord. Donc pour le coup, si je comprends bien... Toi, tu as vraiment eu sur ton deuxième enfant, tu avais déjà fait un peu de portage sur ton premier.
C'est ça.
Et sur ton deuxième enfant, en fait, c'était vraiment tout le temps, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, tu faisais tout à la maison, avec des tâches partagées, je l'espère, mais tu faisais tout ton temps à la maison et à l'extérieur avec bébé sur collé à toi, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est que le premier, je l'ai beaucoup porté, mais ça restait encore, on va dire... soft. Et le deuxième, ouais, les premiers mois, c'était que je ne pouvais pas le poser, quoi. Prendre une douche, c'était un calvaire. Donc, ouais. C'était très compliqué. Et du coup, voilà, ça s'est apparu derrière comme une évidence pour moi de le porter, parce que c'était un besoin vraiment vital pour lui, quoi. Il se mettait dans des états pas possibles quand il n'était pas porté. Et du coup, c'était tellement facile, en fait, finalement, de l'apaiser. Une fois que je le mettais dans l'écharpe, c'était en 10 secondes, c'était fini. Il était serein, il était calme. Moi, indirectement, ça me faisait du bien aussi de l'avoir encore un petit peu contre moi. Et indirectement aussi, la fratrie en a profité parce que du coup, il y avait un grand frère qui était là, qui avait des besoins aussi en même temps, hein, sinon ça serait pas drôle. Et du coup, ça m'a permis de répondre aux besoins de tout le monde en même temps.
Ah, c'est chouette.
Ouais.
Là, on se parle de portage, mais finalement, le portage, c'est quoi le portage?
C'est vaste. Le portage, c'est vraiment le fait déjà de porter son bébé, que ça soit à bras ou dans un moyen de portage, parce que c'est vrai que souvent, on dit « non, moi, je ne vais pas porter mon bébé », mais finalement, les personnes vont quand même porter leurs enfants avec le premier moyen de portage dont la nature les a dotés, avec leurs bras. Et en portage à bras, on a les mêmes bienfaits qu'avec un moyen de portage. Donc, la continuité, la suite logique de la grossesse, le bienfait pour le bébé, la diminution des pleurs, la diminution du risque de postpartum, pardon, pour la maman et aussi des facilités après pour l'allaitement.
Ah, donc, on peut allaiter en portant, alors?
Oui, exactement. Ah bah, ça m'a sauvé, ça. Heureusement qu'on peut.
Ah, d'accord. Mais c'est intéressant de le savoir.
Oui,
c'est intéressant
ouais.
de le savoir.
Ah, ouais.
Donc, je suppose que toutes les interactions physiologiques du maternage proximal, comme on dit, se déclenchent aussi avec le portage, en fait, en permanence.
Exactement. Oui, c'est exactement ça.
Par rapport au fait de devenir monitrice de portage, c'est quoi le parcours?
Devenir monitrice de portage, en soi, c'est facile. Il suffit de faire une formation. Il y a plusieurs organismes qui existent en France, il y en a un petit peu partout en plus. C'est une formation plus ou moins longue, avec différentes expériences. On essaye tous les moyens de portage, on s'entraîne, on échange entre monitrices, on fait aussi des journées de formation continue où on se retrouve tous les ans entre monitrices sur une thématique donnée, les portes bébés, le passage au dos, différentes choses comme ça sur lesquelles on peut s'entraider, se donner nos petits trucs et astuces chacune les unes les autres. Après, il y a aussi tout le parcours, je pense, personnel, soit par notre expérience personnelle, parce que à force de pratiquer, on acquiert des petits trucs et astuces en plus, mais aussi, c'est aussi un travail énorme de recherche, parce que dans la parentalité, même en général, il y a toujours des choses à découvrir, à creuser, et dans le portage, en fait, c'est un petit peu la même chose. Il y a tout le temps des nouvelles marques, des nouveaux produits qui arrivent, et c'est important d'essayer différentes choses, de s'entraîner et d'être le plus objectif possible après quand on vient accompagner les parents.
Donc ça permet aussi d'avoir une belle connaissance de tout ce qui existe, quoi, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Et bien justement, qu'est-ce qui existe ?
Ah là, il existe tellement de choses. Déjà, rien que moi, j'ai un matériel pas possible. Il y a les écharpes, il y a les slings, il y a les métailles, il y a les porte-bébés préformés, il y a les ombus, il y a tout ce qui est hybride. Il y a un choix, en fait, infini. Et c'est vrai qu'en tant que parent, quand on tape portage sur Google, quand on est totalement novice, ben, on est complètement perdu. Et chaque marque ayant un très bon service marketing, ils vont tous vous vendre leurs produits comme étant le meilleur, forcément. Et du coup, ben, les parents sont complètement perdus quand ils recherchent un moyen de portage. Ils vont acheter des porte-bébés qui vont être pas adaptés soit à l'âge de leur bébé, soit à leurs maux à eux, par exemple, s'ils ont des maux de dos, par exemple, ou quand ils achètent un porte-bébé utilisable jusqu'à 20 kg, alors que c'est une norme d'homologation, c'est un petit peu dommage. C'est pas de la publicité mensongère, hein, du tout, parce que c'est des homologations, mais du coup, ça induit le parent en erreur parce qu'il n'a pas les bonnes infos finalement.
Parce qu'en fait, le poids, en fait, c'est pas la seule.
Non, en fait, le poids, c'est une norme d'homologation. C'est-à-dire que le porte-bébé qu'on va acheter, qui va être utilisable de 3 à 20 kilos, il est testé avant sa vente, pendant plusieurs semaines, jusqu'à destruction totale du produit pour vérifier sa résistance en cas de portage intensif avec un poids fictif de 20 kilos. Ça veut dire qu'à ce poids-là, le tissu, les coutures vont résister. Par contre, nous, en portage physiologique, on va toujours veiller à un respect du corps du bébé ou de l'enfant, même plus grand, hein, quand on parle d'un enfant de 20 kilos. Mais il faut garder aussi en tête que pour un confort optimal, il faut avoir aussi une assise qui va couvrir toute la base, donc bien les cuisses jusqu'au creux des genoux. Et ce n'est pas le cas avec des porte-bébés qui sont dits taille standard, qui vont aller jusqu'à 20 kilos. Si on met un enfant de 20 kilos, donc de 4-5 ans dedans, il va être juste suspendu sur le bord des fesses et il ne sera pas forcément confortable.
D'accord. Et ça a des impacts, ça, au niveau de l'enfant, hein, au niveau du porté et du porteur ?
C'est surtout un gros manque de confort, principalement. Parce qu'à cet âge-là, voilà, il n'y a plus trop de soucis au niveau du développement. Après, un portage très intensif avec des jambes qui vont plus descendre vers le bas plutôt que remonter comme un portage physiologique, c'est peut-être pas idéal non plus, effectivement, pour les articulations des hanches ou pour les veines non plus des jambes.
Ok. Donc, en fait, on a une multitude de supports, si je comprends bien.
Exactement.
Une multitude de façons de porter.
C'est ça.
Et alors, comment on fait pour choisir ? Bon, tu vas me répondre, on appelle une monitrice.
Bah mais... oui. On fait un atelier.
Et alors justement, comment ça se passe un atelier ?
Alors, en atelier, moi personnellement, quand j'ai des nouveau-nés, je commence toujours par tout ce qui est la théorie du portage. Pourquoi c'est important de porter son bébé ? Quels sont les bienfaits ? Quelles sont les règles de sécurité ? Parce que c'est comme tout, hein, porter c'est bien, porter de manière sécurisée c'est mieux. Et après, on voit tout ce qui existe sur les nouveau-nés. Donc, on voit les écharpes tissées, les écharpes tricotées, les slings. Et si vraiment les parents, soit ne veulent pas du tout manipuler, ou soit ils n'ont pas la maniabilité et l'assurance nécessaire pour être à l'aise avec une écharpe, on va se diriger vers d'autres moyens de portage. Les porte-bébés, par exemple, préformés à clips, réellement utilisables dès la naissance. Et puis, avec les plus grands enfants, après, ben voilà, on a un petit peu plus de choix. Donc, en général, ça se termine en essayage à la Pretty Woman. On essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. Et après, moi, le but de chaque atelier, c'est vraiment que les parents trouvent le porte-bébé adapté à leur couple porteur-porté.
C'est chouette. Donc, c'est vraiment très, très personnalisé, quoi.
Exactement. C'est trop personnalisable. C'est vraiment un métier d'adaptation, en fait.
Donc, pour le coup, parce qu'en fait, moi, je pense vraiment à ces premiers moments où j'étais... Je citerai pas le nom, mais dans une grande enseigne de trucs pour enfants qui ressemble à quelque chose qui fait de la musique, je me rappelle très bien que vraiment, on me disait non, mais vous prenez ça,
Ça va jusqu'à tel poids et c'est nickel et c'est parfait et ça marche pour tout le monde.
Bah, ça serait trop facile, sinon il n'y aurait qu'une seule marque et puis on porterait tous avec le même truc. Donc c'est ce que je dis à chaque fois en atelier. Moi je ne peux pas arriver et vous dire, ben non, il vous faut ça, hop, vous achetez ça, c'est très bien. Ben, ça serait trop bien. Hein. Enfin, je perdrais moins de temps, mais les ateliers, ils dureraient 10 minutes, ils ne dureraient pas 2 heures. Non, le but, c'est vraiment d'essayer et de trouver. On a chacun notre propre confort, on a chacun notre propre maniabilité. Il y a des parents, je suis désolée de le dire, ils ont 2 mains gauches à la place des mains, c'est compliqué, quoi. Donc on ne peut pas leur dire, ben non, il faut, tu te débrouilles, tu t'entraînes, tu vas y arriver et tu portes avec ça. Ben non, on ne peut pas.
Non, il y a d'autres moyens qui existent, qui sont plus accessibles.
C'est exactement
à la
ça.
Motricité de chacun et de chacune.
Mmh.
Et alors, une question me taraude, c'est qu'on parle de monitrice de portage, on parle de maternage. Alors, pour le coup, j'en ai deux. Déjà, un... Question con, mais est-ce que, à ta connaissance, il existe des moniteurs de portage ?
Oui, il y en a, oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
D'accord. Quelques-uns. Non, mais simple question qui m'est venue là en discutant, je me suis dit, tiens.
Oui, c'est vrai que par défaut, on assimile au corps féminin, mais non, il y en a aussi des moniteurs. Et moi, ma formation, c'est un formateur, justement.
D'accord, ok. Ouais, c'est chouette. C'est bien. C'est bien de savoir qu'il y a aussi des hommes qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire avec le portage. Et
exactement.
Justement, ma question, c'est est-ce qu'il y a une différence dans le portage entre un homme et une femme ?
Alors, sur le portage en soi, non. Après, ça dépend dans le sens où... Alors, des fois, en atelier, j'ai des papas, je vois, en arrivant, ils tirent un peu la tronche et je me dis, oula, à mon avis, c'est la maman qui lui a dit, tu viens, tu t'assois, tu écoutes ce qu'elle dit. Et là, je me dis, bon, il va falloir le convaincre, quoi. C'est déjà mal barré. Et finalement, à force de m'écouter, d'essayer des choses, souvent les papas qui étaient un petit peu réfractaires au début, ben, ils se prennent vraiment au jeu et ils me disent ben, c'est pas si difficile que ça en fait. Et du coup, c'est presque eux qui sont le plus motivés après. Après, en termes de matériel, ça dépend aussi des gabarits. Quand j'ai des papas qui sont grands, qui font 1m90, 90 kg, effectivement, je ne vais pas leur dire faut prendre une écharpe taille 4 ou quoi, ça va être compliqué pour serrer. Hein. Mais non, après, on adapte le moyen de portage aussi à leur gabarit et puis encore une fois, à leur maniabilité aussi. Ils ne sont pas tous très, très souples pour aller chercher les pans dans le dos, les papas. Mais bon.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le portage, c'est que finalement, que ce soit ma femme qui fait 1m67 ou moi qui fais 1m93, on a réussi, si tu veux, à trouver des équilibres et surtout des moyens de portage qu'on va utiliser chacun, en fait. Tu vois, c'est pas chacun avait son moyen de portage.
Ouais.
C'était, on a pu le partager, ce qui fait que, bon, c'est quand même plus pratique. Mm. Et puis, il y a ce côté pendant les balades qui est vachement chouette. Sur ce que tu disais, il y a un truc qui m'a vachement intéressé. Tu disais, les papas sont venus là et donc, t'en as qui viennent et bon, tu te rends compte qu'il va falloir les convaincre.
Ouais.
Et ils te disent après, finalement, c'est pas si difficile que ça. Donc, en fait, les mecs viennent, mais ont peur de pas y arriver, c'est ça ?
Ouais. Souvent, c'est vraiment de l'appréhension pure. C'est qu'ils ont dû regarder des tutos sur YouTube et ils se sont dit, ouais, je ne me sens pas du tout capable de faire ça. Clairement. Ils ne sont pas allés chercher plus loin. Et il y a beaucoup d'angoisse aussi sur le fait, je pense, je prends l'exemple des écharpes tissées où on doit manipuler, serrer en tenant son bébé. Et pareil, ça, il y a plein de parents qui ont peur de ça. Et ils se disent, je ne sais pas, je vais le faire tomber si je le tiens que d'une main ou quoi que ce soit. Et pareil, en fait, quand ils le font, ils se disent, bah, en fait, non, ça se fait bien. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut essayer. Et même si, voilà, les parents sont des fois, ils n'ont pas trop envie, je leur dis, au moins, vous essayez. Soit ça vous conforte dans l'idée qu'effectivement, non, ce n'est pas fait pour vous. Soit ça peut être une belle révélation derrière.
C'est vrai que ça, maintenant que tu en parles, c'est quand même quelque chose, le passage d'eau, tu vois, des trucs comme ça.
Ah bah oui. Bah, le passage d'eau, surtout des nouveau-nés, quand on les fait passer sur l'épaule, les parents, ils me regardent, je les vois comme ça, je me dis, bon, ok, ça va être compliqué. Et en fait, une fois qu'on a vraiment toutes les clés en main, l'enchaînement qui est assez fluide, cohérent dans leur tête, bah, ça se fait finalement assez bien.
Et justement, est-ce qu'au niveau des parents, des papas, des mamans, est-ce que tu as noté voilà, d'autres peurs comme ça, d'autres craintes sur le portage ?
Ils ont tout simplement peur de mal faire en fait. Que ça soit même prendre son bébé dans les bras, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup. C'est le portage à bras aussi. C'est apprendre à porter son bébé avec les bras avant d'utiliser un moyen de portage, le prendre, le poser, le changer. Parce que c'est finalement des gestes qui ne sont pas vraiment montrés en maternité, en tout cas chez nous, pour le coup, des parents que j'ai en atelier, ils me disent « bah non, on m'a pas du tout montré comme ça ». Et du coup, c'est les premiers gestes de base, en fait, de portage. Après, c'est sûr que voilà, c'est vraiment la peur de mal faire, en fait. Ils ont peur de mal faire. Et souvent, en atelier, je vois les parents qui me disent, je leur dis « vous avez déjà essayé, du coup, de porter ?» Ils me disent « non, non, on attendait le rendez-vous ». D'accord. Ils ont trop peur. Ils disent « non, non, j'achète l'écharpe, mais j'attends qu'on vienne me montrer vraiment ». Et du coup, c'est vrai que voilà, une fois qu'on a toutes les petites clés en main, toutes les petits trucs et astuces, qu'on trouve pas forcément sur les tutos ou sur les notices, plus aussi la confiance d'avoir quelqu'un de formé qui peut sécuriser, ça les met tout de suite beaucoup plus à l'aise.
Les tutos, moi, ça m'avait intéressé, tu vois. Après, le portage au tout début, tu vois, moi, j'étais vraiment dans le stéréotype du papa que tu décris. Hein, genre, ouais, ça a l'air chouette, mais vas-y, fais-le toi, tu vois. Et vraiment, c'est ma compagne qui avait regardé les tutos et tout, et qui m'a montré parce que moi perso, si tu veux, quand je regardais les tutos, j'étais là, ok, très bien, elle est douée, hein. Bon, mais moi je le ferai pas.
Et, ouais, mais c'est ça.
Parce que ça a l'air hyper complexe. C'est, je pense qu'en effet, ça a l'avantage de montrer, si tu veux, mais après pour apprendre, il faut.
Il faut s'entraîner. Et puis après, c'est vrai qu'au début, ça paraît très technique, on réfléchit beaucoup, mais souvent, je dis, c'est comme apprendre à conduire. Les premières heures, on regarde toutes les deux minutes notre pédale, notre vitesse, et après, aujourd'hui, on le fait instinctivement, on ne réfléchit plus. En portage, c'est pareil, surtout si on commence avec un tout petit, en plus, on va les porter quoi, 5-6 fois par jour, on va manipuler. Quoi. En 3 jours, vous êtes rodés, en fait.
Et alors, quand même, il y a une question qu'on a le droit de se poser, c'est à force de les porter comme ça, là.
Parce qu'il ne va pas être pour les gâter.
C'est ça, tu vas pas en faire des êtres dépendants.
Non, après, vraiment, ça fait partie aussi du maternage proximal et des choses qu'on aborde. C'est que ces idées reçues-là sont fausses. Et maintenant, il y a quand même pas mal d'études qui le prouvent. Que le contact en peau à peau, ça, c'est vraiment la base de tout. De l'allaitement, du lien d'attachement, ça apaise aussi le bébé. C'est pas parce qu'on porte beaucoup notre bébé qu'on va en faire un enfant pourri gâté. C'est pas parce qu'on porte beaucoup notre bébé qu'il marchera jamais. Au contraire, un bébé qui est beaucoup porté, son système vestibulaire est beaucoup plus sollicité, il va acquérir le sens de l'équilibre beaucoup plus vite. Un bébé qu'on va mettre à distance parce qu'on a peur de le gâter, finalement, il va encore plus rechercher la proximité avec nous. Ça reste si facile, finalement, de répondre à son besoin, de rester à son écoute et de l'accompagner. Voilà, on ne fait pas des enfants par pur égoïsme pour pouvoir avoir un mini-soi avec qui s'amuser. Non, si on fait des enfants, c'est pour construire les adultes demain. Il faut qu'on les accompagne dans leur réveil, dans leurs expériences. Et le portage, ça aide beaucoup à ça aussi.
Ça, c'est côté enfant, mais côté maman, parce que ce qu'on entend aussi beaucoup, enfin, côté maman et côté... Alors, malheureusement, on entend ça, en tout cas, je n'ai entendu que côté maman. La remarque que je veux te dire, c'est « Non, mais là, tu vois, elle le porte parce qu'elle n'arrive pas à couper le cordon. »
Ah, c'est horrible, ça.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je sais pas trop quoi répondre à ça. C'est vrai qu'à chaque fois, je me sens un peu con, je me sens un peu démunie, je sais pas quoi répondre. Je pense que il y a pas de cordon à couper, même si physiquement, il a été coupé à la naissance. Je pense qu'effectivement, on a un lien, on a porté cet enfant en nous, quoi. C'est pas rien. Et on a un lien, une fusion avec cet enfant qui fait que effectivement, c'est peut-être en termes d'attachement, on est peut-être des fois plus attaché qu'avec le deuxième parent. Après, souvent, en plus, ça vient aussi du fait que les mamans, on reste à la maison les premières semaines à s'occuper principalement voilà, de nos enfants. Mais ouais, je ne sais pas trop quoi répondre d'autre à ça. Je pense que c'est une réflexion de merde, quoi.
Alors, c'est une réflexion de merde. Non, mais très bien, mais t'inquiète pas, je le mettrai en parole explicite.
Voilà. ça me dépasse tellement, ça. Que...
Alors, moi, j'ai des éléments de réponse là-dessus, ouais. En fait. Et donc, je vais travailler un peu sur les propos d'Ingrid Bayo, qui est une personne que j'ai interviewée dans la saison 1 sur l'allaitement, et qu'on retrouve dans cette saison 2 sur un épisode spécial sur l'instinct maternel. Et en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut... Donc, ça va être le moment un peu scientifique aussi. Voilà.
McNesby, bonjour.
Voilà. Ça va être... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre espèce a 300 000 ans. C'est quelque chose que je dis et que je répète. Encore une fois, je l'ai répété sur l'allaitement. En fait, c'est quelque chose que je vais répéter sur tout ce qui concerne le maternage ou le parentage proximal. Notre espèce a 300 000 ans. D'accord ? Avant, on était nomades. La sédentarité est arrivée il y a 5000 ans, à peu près. Hein, tout ça, c'est à la louche. Hein, les experts de l'histoire et du développement de l'humain, désolé, mais voilà, je suis à la louche. Donc, pendant 295 000 ans d'espèces, on a porté nos enfants. Puisque, étant nomades, on portait. Mais il y a quand même une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, avant même notre espèce qui a 300 000 ans, on était encore, on vient encore d'une autre espèce qui était aussi une espèce de maternage proximal plus primitive. Et où ça portait encore énormément, mais là, sans moyen de portage, ça portait juste au poil, on va dire. Et en fait, il y a ce qu'on peut appeler des facilitateurs biologiques de survie de l'espèce qui se sont mis en place. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, on redécouvre en fait ça dans l'épigénétique aujourd'hui, si tu veux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, ben, naturellement, notamment une maman, pas que les mamans, attention les gars, allez pas vous servir de ça pour essayer de fuir le portage, hein, mais il y a en fait des facilitateurs biologiques qui, selon l'environnement, vont être activés ou non, pour simplement faire garder son bébé contre soi, parce qu'on sait que c'est bon pour lui.
D'accord,
parce qu'on sait, au fond de nous, que c'est bon pour lui. Ben voilà, c'est un truc que tu peux répondre. Alors, c'est un peu long. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ta réponse, en tout cas précédente, c'était que finalement, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour toi de démocratiser le portage ? C'est quoi l'enjeu, en fait, sur le sujet-là ?
L'enjeu, je pense que c'est surtout, ben, un petit peu par rapport à ce que tu disais là, c'est de revenir un petit peu à nos valeurs d'antan, parce qu'effectivement, en fait, on a toujours porté nos bébés. Quoi qu'on pense, même si les gens ont l'impression que c'est un phénomène de mode qui revient, non, pas du tout, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a toujours pratiqué. Même les hommes de Cro-Magnon, ils étaient obligés de porter leurs bébés parce que s'ils les posaient à terre, ça devenait une proie pour les prédateurs. Donc du coup, c'était une évidence de porter leurs enfants jusqu'au XVIIIe siècle où avec l'hygiénisme, voilà, il a fallu mettre un petit peu en distance les enfants. Ensuite, les mamans sont parties travailler, donc il fallait séparer tôt l'enfant de la mère. Et ces périodes-là, ça a créé vraiment une cassure dans notre histoire, dans notre patrimoine portage. Et du coup, voilà, là, il y a de plus en plus de choses qui sont faites, notamment des études qui montrent les bienfaits du portage, qui nous permettent de nous raccorder un petit peu avec ces valeurs-là qu'on a un peu perdues.
J'aime beaucoup le terme « raccorder » que tu utilises. Parce que, un, c'est pas loin du cordon, donc j'aime bien. Et deux, ça rappelle aussi le côté que tu as cité précédemment. Tu parlais de lien d'attachement. Et c'est extrêmement important, puisque aujourd'hui on sait, on va pas se retaper toute ma saison 1, mais aujourd'hui on sait que le lien d'attachement, c'est quand même essentiel,
oui,
justement,
ouais,
pour que l'enfant puisse se développer dans les meilleures conditions possibles, et que c'est justement plus on va créer un lien d'attachement fort, donc je vais le répéter, plus on crée un lien d'attachement fort, plus l'enfant de lui-même est capable de partir explorer le monde depuis son camp de base sécurisé.
Ouais, exactement. Et moi, je donne souvent cet exemple-là aux parents quand ils ont en tête de se dire, ou quand ils veulent parer la réflexion de la belle-mère qui dit « Oui, mais tu le portes trop, il ne marchera jamais. Il sera toujours collé à toi. » Ouais, mais non, en fait, plus je le sécurise, plus il est en confiance avec moi, plus quand il va vouloir être autonome, commencer à ramper par terre, il va y aller de manière confiante parce qu'il sait que il y a un bruit quelque part qui va le surprendre, une assiette qui va tomber par terre, il va avoir peur, il va être surpris, il va nous appeler, nous, sa figure d'attachement, et il sait très bien qu'on va venir le réconforter. Alors qu'un enfant qui a toujours été, on va dire, seul, dans le sens où il est un petit peu moins accompagné, où les parents sont peut-être un peu moins à l'écoute de ses besoins, un enfant comme ça, il va se dire je sais pas si j'y vais pas, parce que s'il se passe quelque chose, je suis tout seul, quoi. Donc c'est finalement, non, ça les aide beaucoup plus dans leur autonomie.
Ah non, mais c'est sûr, ça c'est sûr. Et pour le coup, le portage, c'est un très beau moyen. Moi, je me rappelle des siestes en portage, des tétés aussi en portage, pour le coup. Et c'est magnifique, et c'est juste ultra pratique. Notamment quand tu viens d'être parent, moi je me rappelle, c'était la guerre, quoi. Ta femme, elle a été, enfin moi ma compagne, elle a une césarienne, elle était KO. Les gens qui viennent rendre visite, ils viennent rendre visite, mais surtout ils te foutent quand même le bordel dans la maison, donc faut que tu ranges, ta femme elle est carpette, et toi t'as le petit, t'as la petite aussi, ouais, mais le portage, ça te sauve la vie, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, même pour ranger, pour tout faire, ou après quand tu as d'autres enfants, ou... ça t'évite de rester 5 heures sur le canapé à attendre que ça se passe, parce que le ménage, il va pas se faire tout seul, parce que voilà, il y a des devoirs du grand à faire, ou voilà, c'est la vie de parent. On a
et
signé pour
parents.
Ça.
Et des deux parents, j'insiste oui. là-dessus, oui, oui. Et des deux parents. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça, de tes meilleures anecdotes, les plus drôles, les plus ce que tu veux de portage?
J'ai pas d'anecdotes en soi à partager, c'est plus plein de petits moments agréables. C'est de me dire, voilà, mon deuxième, pendant un an, ça a été sieste aspirateur tous les matins. Où ça a été la possibilité de faire des choses tous ensemble. C'est quand tu vois ce petit doigt qui sort de derrière ton dos, qui te pointe quelque chose là dehors quand tu es en balade. C'est plein de petits moments comme ça de partage.
Et pour le coup, les pires moments ou les pires remarques, bon, des remarques, tu en as déjà cité pas mal, mais
ouais.
Les pires moments de partage, c'est quoi?
Les pires moments de
tout
partage.
Tout n'est pas rose. On va pas vendre un truc genre le portage c'est parfait.
Non,
les
pires moments de portage c'est quand ton premier passage d'eau, tu galères et au bout de 20 minutes quand tu es en nage, il te vomit dans la nuque. Ça c'est génial ça. Ça c'était mon premier, un bébé à reflux, c'est cadeau. Donc tu enlèves tout, tu nettoies et puis tu essayes de recommencer. C'est royal.
Non, mais ça, alors ça, j'avoue que le vomi dans la nuque pendant le passage d'eau...
Ah, ça, c'est génial. Ça, si tu l'as pas expérimenté, je recommande.
Ah ouais, c'est magnifique. Et il y a une grande question, il y a un grand mystère. Et donc, tous ceux qui ont fait du portage un jour avec un bébé qui s'endort ou pour endormir le bébé se reconnaîtront. Que peux-tu nous dire sur... Voilà. Que peux-tu nous dire sur le largage?
Alors, soit on prend sur soi et puis on attend. Soit le largage. Alors, moi, le largage, je le recommande dans les 5-10 minutes après l'endormissement. Comme ça, le sommeil, il est bien lourd. Et même si on les manipule, en général, ça passe. Si c'est sur la fin de sieste, c'est bon, c'est mort, on les réveille. Mais le largage, voilà, le plus en douceur possible. Il y a plein de techniques après qui existent. Il y aurait une solution miracle, je pense que voilà, on la connaîtrait. Mais je pense qu'il faut s'entraîner, il faut essayer des trucs. Il faut chauffer la place dans le lit au préalable. Il faut le laisser un petit peu enrouler dans le moyen de portage. Sinon aussi, le fait de garder un peu la chaleur, ils aiment bien. Les garder un petit peu contenus aussi quand c'est les petits, les tout petits, si tu les sors du sling et que tu les poses comme ça, ils ont le réflexe de Moreau, waouh, ils se sentent tomber en arrière, c'est bon, ils sont réveillés, c'est foutu, mais les garder un petit peu enroulés dans le sling, en torsadant l'écharpe autour d'eux un petit peu pour les garder un petit peu contenus, voilà, ça reste des pistes de choses à explorer, mais le meilleur moyen, c'est de tester des trucs.
Ouais, mais c'est des bonnes astuces. Hein. En tout cas, j'aurais pris ça moi, il y a quelques temps.
Ouais.
Et l'autre question que je voulais te poser, c'était, bon, on peut porter à toute saison. Maintenant, est-ce qu'il y a des moyens de portage plus spécifiques ou des accessoires à connaître, plus pour l'été, plus pour l'hiver plus... Parce que, tu vois, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté... Enfin, t'as ton manteau, tu vois, moi j'ai mon gros manteau d'hiver. Qu'est-ce que je fais, la petite? Je la mets... à l'extérieur du manteau, sachant que je peux pas refermer mon manteau si je la mets contre moi, machin, tu vois.
Ouais. Non, alors effectivement, il y a des astuces, on va dire, oui, de portage d'été ou de portage d'hiver. Donc là, vu que ça va être la saison, on va parler portage d'hiver. Effectivement, on va toujours protéger les extrémités du bébé, donc la tête, les pieds, éventuellement les mains. Les mains, si moi, je préconise vraiment quand il fait très très froid, parce qu'en général, les mains après, elles sont coincées, on va dire, entre le porteur et le bébé. Donc du coup, il y a ce partage de chaleur qui fait que les mains ne sont pas forcément trop froides. Pour la tête, moi, je suis pro cagoule. De toute façon, tant qu'ils ne peuvent pas l'enlever tout seul, en général, ils ne disent trop rien. Ça évite les bonnets qui penchent à droite, à gauche, ou quand tu tournes la tête, le bonnet ne suit pas. Enfin bref, c'est compliqué. Et pour les jambes, des jambières, des petites bottes fourrées montantes, système D, une paire de chaussettes à vous, ça marche très bien aussi. Sinon voilà, après non, effectivement en portage on va jamais mettre de manteau sur le dos du bébé dans le moyen de portage. Au pire on va lui rajouter une petite couche, un lainage, un gilet, quelque chose comme ça, mais on va couvrir par dessus le moyen de portage. Donc il y a plusieurs possibilités, effectivement il y a soit des manteaux de portage avec des inserts directement qui se clipsent sur le manteau en portage dos ou en portage ventral. Il y a les inserts de portage qui vont venir se zipper ou se clipser avec des aimants sur le manteau du porteur, votre manteau à vous. Il y a les couvertures de portage qui viennent, eux, s'accrocher au moyen de portage. Et encore une fois, système D, ben, on vient coincer un plaid de part et d'autre du moyen de portage pour couvrir le bébé. Et puis voilà, il y en a pour tous les budgets et pour toutes les possibilités aussi.
Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents et aux parents en devenir qui se demandent s'ils vont porter ou non ?
Je pense que c'est important de se renseigner avant tout, d'avoir vraiment quelqu'un d'objectif qui puisse vous répondre et pas de demander des choses aux marques qui, comme je disais tout à l'heure, va vous vendre son produit comme étant le meilleur et étant forcément adapté, même si c'est pas forcément le cas. De chercher voilà, toutes les infos qui sont bonnes à prendre sur le portage, sur les différents moyens de portage qui existent. Et l'idéal, encore une fois, ça reste de faire un atelier, de rencontrer un professionnel qui puisse vous accompagner de manière personnalisée et vraiment individuelle.
Et on les trouve où ces infos ? Parce que bon, toi, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour te retrouver, on peut te retrouver sur Instagram, notamment avec ton compte Dans ma poche kangourou. Ouais. Bon, il y en a d'autres, hein, des comptes sur Instagram. Alors, quand tu dis chercher les infos, tu parles d'Instagram, tu parles de... Alors, est-ce qu'il existe des annuaires, des choses pour trouver des monitrices et des moniteurs ?
Il y a soit effectivement des annuaires sur le site Porter son enfant, par exemple. Il y a divers annuaires qui ont été faits sur des marques de portage aussi. Je pense à Tinge Garden, je pense à Boba, qui ont créé des cartes de France et qui ont, voilà, en fonction des localités, posé des points où il y a des monitrices. Après, vous pouvez aussi contacter n'importe quelle monitrice. Moi, c'est quelque chose, une demande à laquelle je réponds très souvent. On me dit, ben, tiens, où est-ce que je peux trouver une monitrice à tel endroit ou dans telle région ? Et toutes les monitrices, on est aussi répertoriées sur un groupe Facebook et on se recherche après en fonction des régions et des départements. Comme ça, on peut facilement trouver qui est-ce qu'il y a, on va dire, dans telle région, à tel endroit, pour pouvoir réorienter au mieux.
Donc, si je comprends bien, le portage, c'est facile de trouver quelqu'un pour nous former.
Ouais, normalement, oui.
C'est facile à faire.
Oui, du moment qu'on a les bonnes infos.
Du moment qu'on a les bonnes infos et le bon moyen de portage.
Ouais.
Qui nous correspond. C'est bon pour l'enfant.
Ouais, c'est bon pour les parents.
C'est bon pour les parents.
Oui.
Bon, ben, il n'y a plus qu'à, alors.
C'est ça. La seule limite, c'est souvent, comme je dis, c'est l'appréhension. Et la peur de mal faire et le côté aussi, les gens pensent que c'est un petit côté bobo en disant oh, c'est bizarre ton truc. Moi, je vais prendre ma poussette. Mais la poussette, va à la plage avec ta poussette, tu vas voir, mon gars.
Mais c'est intéressant, ça, le côté bobo, parce que c'est intéressant que tu en parles, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté. On entend dire les gens dire qu'il y a un petit côté bobo.
Ouais.
Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire bon, on ne va pas rentrer dans des débats de classe, mais j'ai envie de te dire. Quand tu vois le prix d'une poussette, tu vois, justement, pour aller à la plage, une poussette tout terrain qui peut aller à la plage, hein, bien équipée, hein, bien sûr, parce que forcément, dans la poussette, il faut que tu rajoutes ta petite ombrelle, ton petit machin, ton petit truc. Donc, tu en es facilement pour 600 balles, quoi. Mais en moyenne, un moyen de portage, ça coûte combien en moyenne ?
Je dirais que c'est entre 100 et 200 euros, après, tout confondu, que ce soit écharpe ou porte-bébé préformé. Donc, voilà, il y a des grosses différences. Après, par exemple, un sling d'occasion, on en trouve à 30-40 euros, des très bien, quoi. Donc, il y en a vraiment pour tous les budgets aussi. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement, si on compare à la poussette, moi, mon premier enfant, c'est le premier truc qu'on a acheté, c'était notre carrosse, notre poussette à 700 euros. Wouh, on était fous, quoi. Et en fait, elle n'aura pas beaucoup servi, quoi.
Ouais, pareil. La poussette, elle a pas beaucoup servi. Elle a servi éventuellement, je crois, quand les mamies l'ont baladée.
Ouais, voilà.
Trois fois, mais c'est tout, quoi.
Moi, mon fils, quand il est chez les mamies, son truc, c'est d'aller dans la poussette parce qu'il a tellement jamais connu ça de sa vie. Il a l'impression de faire un tour de manège, quoi. il aime bien.
Donc, pour résumer, on reprend le résumé. Le portage, c'est bon pour l'enfant, c'est bon pour les parents. C'est facile à mettre en place.
Ouais.
C'est potentiellement pas cher, notamment d'occasion.
Voilà.
Et je te rejoins sur le prix à 30 euros de notre première écharpe. On l'avait bien payé à 30 euros.
Bah ouais.
Et ben c'est chouette. Il n'y a plus qu'à, alors.
Bah c'est ça. Il n'y a plus qu'à se lancer. À prendre confiance.
Aux parents qui nous écoutent, il n'y a plus qu'à.
C'est ça.
Merci beaucoup, Émilie.
Bah merci à toi. J'ai passé un très bon moment et j'espère qu'on aura donné vraiment les bonnes infos à tout le monde.
Je n'en doute pas. En tout cas, c'est moi aussi, j'ai passé un très bon moment et j'espère que ça sera partagé par nos auditrices.
Ouais.
Au revoir, Émilie.
Merci. Bonne journée.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.